Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiphaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Clémence Alezard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Sémo.
Bonjour.
Journaliste au Monde, bien sûr. On va s'intéresser à l'Europe. Hier s'est ouvert à Bruxelles un Conseil européen, le premier sommet européen pour le nouveau président français. Il était très attendu par l'ensemble de ses partenaires et pour cause. Il s'est montré durant la campagne, mais aussi depuis son investiture, un responsable politique extrêmement europhile. Alors que peut vraiment Emmanuel Macron? Cette semaine, le magazine britannique The Economist fait sa une sur le président français, le présentant marchant sur l'eau, fier, souriant, avec cette question « Europe Savior », le sauveur de l'Europe, point d'interrogation. Pour y parvenir, il faudra surmonter nombre de défis sécuritaires, économiques, sociaux, avec des dossiers extrêmement complexes, extrêmement urgents aussi, au premier rang desquels le Brexit, évidemment. Les négociations ont désormais officiellement commencé. Quelle sera la posture du nouveau « New Boy » de l'Europe ? « New Boy », c'est ainsi qu'il a été appelé par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui fut peut-être l'un des seuls à s'être montré assez mesuré, voire circonspect, sur les effets de l'arrivée du petit nouveau sur la scène européenne. Macron peut Peut-il vraiment sauver l'Europe? C'est la question qu'on va se poser. Pour ce faire avec nous, Yves Bertoncini, déjà avec nous en studio. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Directeur de l'Institut Jacques Delors et président du Mouvement Européen France. On aura également dans quelques instants Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle. Mais d'abord, place à notre retour d'eux. Nous allons recevoir dans quelques instants une journaliste qui revient de Chine. Mais on va commencer par un hommage, puisque lundi matin, plusieurs journalistes ont été touchés par une explosion alors qu'ils couvraient la libération de la ville de Mossoul sur la ligne de front. Deux ont perdu la vie, un journaliste irakien, Bakhtiar Haddad, et un journaliste français, Stéphane Villeneuve. Stéphane Villeneuve était venu à ce micro en janvier 2012. À l'époque, il revenait du Yémen, où il avait enquêté sur le mouvement de contestation qu'avait connu le pays dans le sillage des printemps arabes. Au-delà des analyses qu'il nous avait apportées sur la situation politique elle-même, j'avais commencé en l'interrogeant sur les difficultés qu'il avait rencontrées pour se rendre dans ce pays, pour y exercer le travail d'enquête journalistique, l'occasion pour lui de nous livrer aussi sa conception du métier de journaliste, Stéphane Villeneuve.
Ça a été la partie la plus difficile, je dirais, parce que à partir du moment où, avec les collègues de CAPA, on a décidé de s'y rendre, il s'est passé à peu près 2 mois et demi de tractation, parce que c'est pas, il n'y a pas d'autre mot, avec le ministère de l'information yéménite, donc à Sanaa, dans la capitale, et le consulat du Yémen à Paris. Bon, comme souvent, on vous demande beaucoup de pièces à rendre, et malgré toutes ces pièces, chaque jour, il y avait quelque chose qui manquait. Donc ça pouvait être un détail sur le passeport, ça pouvait être qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans le Nord. Enfin bon, des questions encore qui peuvent passer parce qu'elles sont compréhensibles dans un régime comme celui qui existe au Yémen. Mais après, il y avait aussi surtout, à mon sens, une réelle volonté d'empêcher une caméra étrangère de se rendre à Sanaa.
Très clairement, vous n'avez pas pu filmer ce que vous vouliez, vous n'avez pas pu rencontrer les gens que vous vouliez.
Non, pour être tout à fait honnête, pas tout. Bon, j'ai quand même réussi à faire un maximum de choses, parce que dans ce métier, de toute façon, puisque toutes les choses sont interdites par définition, il faut les transgresser, sinon c'est pas très intéressant.
Vous auriez pu faire le choix d'y rentrer clandestinement?
Non, parce que ça se justifiait pas. Et puis, clandestinement, ça voulait dire qu'il aurait fallu que je rentre soit par l'Arabie Saoudite, qui est au nord du Yémen. Et donc là, c'est opération impossible, parce que les Saoudiens sont très, 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 très durs sur les frontières. Et puis, on rigole pas avec eux. Soit par les accès maritimes. Donc, il y a le golfe d'Aden, il y a la mer Rouge. Et là, c'est des bastions qui sont soit tenus par Al-Qaïda, soit par des tribus, on va dire, très islamisées. Donc c'est, en fait, pour remonter à la capitale, j'aurais déjà eu 2 soucis majeurs dont j'étais vraiment pas sûr de pouvoir passer, quoi.
Le Le journalisme, une activité par nature transgressive, nous disait Stéphane Villeneuve ici à ce micro en janvier 2012. La voix de Stéphane Villeneuve, donc, qui s'est éteinte du côté de Mossoul, où il a trouvé la mort dans une explosion et qui a également emporté la vie du journaliste irakien Bakhtiar Haddad. Nos pensées vont évidemment à leur famille et à leurs amis. Le monde continue de tourner, l'information continue aussi d'être produite. Et nous allons recevoir tout de suite une invitée qui revient, elle, de Chine. C'est Marjolaine Grappe. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vous, donc journaliste, ancienne correspondante en Chine entre 2012 et 2016. On vous reçoit pour un documentaire notamment intitulé « La peine des hommes » que vous avez co-réalisé avec Christophe Barrère, qui a été diffusé il y a quelques temps sur France 24. Petit extrait d'abord.
Je suis tellement pressée. Il faut qu'il nous ramène une belle fille. Pourquoi ? Vous savez quel âge a notre fils ? On va devenir quoi, son belle-fille ? On ne va pas travailler éternellement.
C'est ma responsabilité. Je suis leur fils. L'avenir de notre famille repose sur mes épaules.
Voilà, la mère d'un jeune homme, Lan Sui, pressée de voir son fils trouver une épouse, car c'est l'avenir de toute la famille qui est en jeu. Marjolaine Grappe, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc intéressée à cette question de la politique de l'enfant unique en Chine et à ses conséquences, bien qu'elle ait été abandonnée, en tout cas assez largement assouplie. On va y revenir, ses effets continuent à se faire ressentir. Ce documentaire s'ouvre sur un industriel qui s'est lancé dans la production de poupées en silicone. Il a développé un modèle de corps de femme baptisé 158. Cette explosion de la production de vente de poupées en silicone, ça pourrait apparaître comme assez risible si elle ne cachait pas en fait une réalité absolument dramatique pour des millions d'individus, des hommes et des femmes bien sûr, parce que malgré l'assouplissement de cette politique de l'enfant unique, eh bien tout ça continue de faire des ravages et menace en réalité la stabilité du pays.
Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que suite à l'instauration de la politique de l'enfant unique dans les années en 1979, progressivement, dans les campagnes, les gens ont été la politique s'est durcie au fil des années 80. Et donc, très vite, les paysans se sont retrouvés à devoir avoir soit un garçon, soit une fille, dans des campagnes où seul un garçon pouvait travailler au champ et pouvait transmettre le nom de la famille. Et donc, ça a eu des conséquences désastreuses à l'époque, puisqu'ils se sont mis à éliminer les petites filles. Mmh. Et à l'époque, donc, on avait des documentaires, des reportages ont été faits sur ce destin tragique de ces petites filles. Et l'idée de ce documentaire était de voir 35 ans après, quelles étaient les conséquences pour la Chine, puisque ces petites filles qui ont été éliminées à la naissance ne sont pas devenues des femmes. Et donc aujourd'hui, en Chine, on se retrouve avec une terrible pénurie de femmes et donc de nombreux hommes qui se retrouvent célibataires.
Alors justement, parce qu'en particulier dans les campagnes, on voit que les conséquences sont absolument désastreuses. Des millions d'hommes se retrouvent dans l'incapacité de trouver une épouse et en particulier peut-être dans les zones rurales.
Tout à fait, c'est dans les zones rurales que le problème est le plus exacerbé, puisque c'est là que les paysans avaient désespérément besoin d'un fils pour travailler au champ, et donc c'est là que l'élimination a été la plus terrible, d'autant que les femmes, celles qui ont réussi à naître dans les campagnes, vont souvent dans les villes pour aller chercher un meilleur destin, puisque la pénurie est la même, se repercute un peu dans tous ces endroits, et donc du coup elles peuvent avoir une vie moins compliqué à la ville.
Et d'ailleurs, les hommes aussi vont à la ville parce que pour trouver une épouse, alors on voit dans votre documentaire, il y a des hommes qui décident carrément d'aller à l'étranger, au Laos, aux Philippines, mais il y en a aussi, et c'est peut-être la majorité, qui se rendent précisément dans les villes, dans les usines, pour essayer de trouver l'âme sœur sur les lignes de production de ces usines.
Oui, alors on a d'ailleurs suivi le destin de Xiao Yang, qui est l'un des jeunes garçons qui se retrouve dans le Delta des Perles. Donc il est parti à 3-4 heures de chez lui pour travailler dans une usine. Et il se retrouve en compétition, parce qu'on peut vraiment parler de ça, en compétition avec des centaines d'autres jeunes hommes de son âge, qui aussi tentent de trouver l'âme sœur, sans succès, parce que les jeunes femmes de leur génération ne veulent pas se marier avec un ouvrier, mais espèrent faire un beau mariage pour, pareil, améliorer leurs conditions.
Oui, d'ailleurs, pour les femmes, la concurrence entre les prétendants les pousse à être de plus en plus entreprenants, voire carrément agressifs dans la manière de les appréhender. Et on voit aussi un phénomène qui est la multiplication des violences à l'égard des femmes.
Alors, c'est ce que...
Dû à cette concurrence, en réalité.
Voilà, alors c'est ce que... Alors, il n'y a pas encore de chiffres, c'est pas un phénomène qui a encore été étudié, mais c'est quelque chose dont nous parlaient clairement des associations chinoises qui rencontrent ces jeunes gens qui travaillent dans des usines. Et même le directeur de l'usine dans laquelle nous avons pu tourner nous disait que c'était très compliqué, puisque dans les usines du Delta des Perles, donc c'est l'usine du monde, c'est là que sont fabriqués énormément d'objets qui sont ensuite commercialisés en Europe et dans le monde entier. Et il faut savoir qu'il y a 2 ans, dans la plupart de ces usines, 70% de la main d'œuvre était féminine. Aujourd'hui, le ratio est en train de complètement changer. Aujourd'hui, la moitié de ces travailleurs sont des hommes et des hommes qui ne s'épanouissent pas dans leur vie privée parce qu'ils n'ont justement pas de femmes. Et donc, du coup, ça fait des situations de tension dans ces usines.
Ils ne s'épanouissent pas dans leur vie privée, mais c'est aussi un désastre du point de vue de la société dans son ensemble, parce que le regard de la société est extrêmement dur. Dites-nous, comment est-ce qu'on les appelle, ces hommes ? Les branches mortes.
Exactement, les guangun, les branches mortes, qui n'auront pas d'enfants et qui n'auront pas de descendance. Et donc, c'est un sujet qui est très compliqué à aborder en Chine, puisque ces hommes doivent non seulement faire face à la solitude de ne pas trouver de femmes, mais aussi à l'opprobre de la société qui leur reproche de ne pas donner un fils à leurs parents et de ne pas poursuivre la descendance.
Et alors, ce qu'on voit émerger dans ce contexte, dans cet environnement, c'est un véritable marché matrimonial. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui payent pour que des femmes acceptent de les épouser. Il y a par exemple un homme que vous rencontrez qui vous dit avoir payé 70 000 euros, l'équivalent de 70 000 euros, pour qu'une femme accepte de l'épouser.
Alors c'est un
marché.
C'est donc nous nous trouvons à ce moment-là en tournage dans un village de célibataires, c'est comme ça qu'on les appelle en Chine. C'est des villages où il n'y a tout simplement pas assez de femmes et donc la plupart des hommes sont célibataires et on se balade simplement dans la rue, on rencontre des gens et l'un de ces jeunes hommes nous dit pour moi c'est impossible d'avoir une femme ici parce que le prix du marché en ce moment c'est 70 000 euros et c'est une somme que j'ai absolument pas. Et donc du coup ces hommes se retrouvent pour la plupart à devoir partir à l'étranger pour aller s'acheter une femme qui leur coûtera moins cher qu'une femme chinoise.
C'est le cas donc de cet homme qui ira du côté des Philippines pour amener...
Qui ira en Indonésie.
En Indonésie, pardon.
Alan Sui, tout à fait.
Vous avez aussi rencontré un homme qui s'est marié il y a quelques années et qui, du jour au lendemain, a perdu totalement la trace de sa femme. Il a fait tous les commissariats, tous les hôpitaux de la région et son hypothèse est qu'elle a été enlevée. Est-ce que cette hypothèse paraît plausible ? Semble-t-il, oui, parce que visiblement, il y a tout un réseau qui est organisé de kidnapping de femmes.
Tout à fait. C'est quelque chose qui n'est pas chiffré, mais qui s'observe dans les régions très reculées de Chine, où des femmes disparaissent du jour au lendemain. Et ce qu'on nous racontait, c'est que la plupart de ces femmes sont emmenées dans des villages où tout le village est complice. Et donc, du coup, en fait, ils les gardent. Ils les empêchent donc de pouvoir passer un coup de fil, de pouvoir aller au marché, de pouvoir sortir de ce village-là. Et donc, du coup, c'est des femmes qui disparaissent. Et effectivement... L'homme que nous avons rencontré cherche désespérément sa femme et lui nous dit « C'est très étrange, du jour au lendemain, elle a disparu. J'ai juste retrouvé notre voiture abandonnée au bord de la route. Elle est partie sans papier, elle est partie sans argent. J'ai fait tous les hôpitaux de la région, j'ai fait tous les postes de police. Il l'a cherché d'ailleurs dans toute la Chine. Il a investi toutes ses économies. Il a promis 8000 euros, toutes ses économies à qui la retrouverait. Et il dit « Si je ne l'ai pas retrouvée et si je n'ai pas retrouvé son corps à ce stade-là, c'est que... elle a dû être kidnappée, elle doit être dans les montagnes et elle n'a aucun moyen de nous contacter.
Et que font les autorités pour lutter contre ce trafic ?
Alors, les autorités chinoises luttent contre ce trafic. Elles ont, par exemple, l'année dernière, arrêté plus de 30 000, elles ont sauvé plus de 30 000 femmes qui avaient été trafiquées à cause de ça. Donc elles font des choses. Après, c'est très compliqué de savoir en Chine ce qui est vraiment fait, ce qui ne l'est pas fait, parce que tout ce qui est demande d'autorisation de tournage officiel est extrêmement compliqué à avoir. On a passé des mois à tenter d'essayer de filmer ce que faisaient les autorités, parce qu'on disait que c'était important de le montrer aussi. On fait souvent des reportages à charge en disant rien n'est fait, il y a un problème. En Chine, on avait des informations, il y avait énormément d'articles dans la presse qui disaient que des sauvetages avaient eu lieu, mais on n'arrivait pas à obtenir ces autorisations. Et c'est assez marrant parce qu'on a envoyé, je pense qu'on a envoyé une cinquantaine de demandes de tournage à chaque antenne qui sauvait certaines de ces femmes au fur et à mesure que les sauvetages avaient lieu. Et à chaque fois, c'était fin de non-recevoir. Et on a finalement contacté le ministère de la Sécurité publique à Pékin en leur disant « Écoutez, c'est pas possible, on voit clairement que vous faites des choses, on a envie de le montrer dans notre documentaire pour montrer que c'est pas quelque chose que vous ignorez et que vous êtes en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut au moins avoir une interview avec vous ?» Alors ça a été très compliqué. expliqué, ils nous disaient on va voir ce qu'on peut faire, etc. Finalement, nous n'avons jamais eu d'interview. Par contre, un jour, dans la boîte aux lettres, au bureau, on a reçu un DVD avec juste une enveloppe ministère de la Sécurité publique et avec dessus des images qui sont dans le documentaire, qui sont des images de ces sauvetages qui ont probablement été tournées pour les télévisions chinoises et qu'ils avaient décidé de nous communiquer. Alors, ils sont en opération dans un train, ils sont en opération dans les campagnes et puis ils nous ont même carrément envoyé l'interrogatoire d'une de ces trafiquantes qui est filmée pour nous montrer comment ils opéraient.
Autre documentaire, toujours sur cette question de la politique de l'enfant unique, Chine, le cri interdit, qui est un documentaire qui par ailleurs a été présélectionné pour le prix Albert Londres qui sera rendu dans quelques jours, dont nous sommes partenaires, je le rappelle, autour de ces femmes sur lesquelles pèse évidemment cette loi de la natalité extrêmement contraignante qui les empêche d'avoir plusieurs enfants librement. Il faut rappeler que jusqu'à peu, il y avait des amendes très lourdes, voire carrément des stérilisations forcées. Ces enfants qu'elles n'ont pas le droit d'avoir au regard de la loi, en tout cas s'appellent les AIZ, les enfants illégaux. Votre documentaire s'ouvre sur le cas d'un couple qui vit à la campagne, Liao et sa femme Shia. Ils ont deux enfants. Comme la première était une fille, ils ont eu le droit d'en avoir un deuxième. C'est la règle pour les ruraux. Et après son deuxième enfant, avril 2012, les agents du planning familial se rendent chez eux. On peut dire, oui, j'allais dire quasiment capturent la femme. C'est presque le cas. En tout cas, la contraignent à se faire stériliser.
Oui, parce que ce qui se passe, c'est que dans les campagnes, souvent, les agents du planning familial s'arrogent le droit de stériliser les femmes préventivement. C'est-à-dire que, cette famille avait deux filles, ils craignaient justement, toujours dans ces idées de perpétuer la lignée familiale, d'avoir un fils, que cette famille tente d'avoir un troisième enfant. Et donc, du coup, ils ont débarqué à 5h du matin, ils l'ont prise, emmenée dans une voiture et emmenée au bureau du planning familial pour la stériliser.
Ça veut dire que ces agents du planning familial, ils sont très nombreux, hein, c'est des millions sur l'ensemble du territoire, ils ont tout pouvoir quasiment. Parce que normalement, officiellement, le planning familial ne peut pas contraindre une femme à l'avortement, ne peut pas contraindre une femme à la stérilisation.
Ce qui s'est passé, c'est que l'enjeu de la maîtrise de la population en Chine a été tel dans les années 80 qu'au fur et à mesure, le planning familial a pris une influence considérable dans le pays. Aujourd'hui, le planning familial est l'un des ministères les plus influents dans le pays. Et donc du coup, ils s'autorisent les pleins pouvoirs dans les régions et notamment dans les régions rurales. Il y aura plus de contrôle dans les grandes villes que dans ces provinces reculées, là où nous avons filmé. Mmh. Et donc du coup, eux-mêmes écrivent leurs propres règles d'une certaine façon.
Depuis janvier 2016, la règle a été considérablement assouplie. C'est terminé tout ça ? Les avortements forcés, les stérilisations forcées, c'est fini ? C'est le passé ?
Alors, la règle a été assouplie depuis le 1er janvier 2016. Les Chinois ont le droit d'avoir deux enfants. Des règles demeurent. On ne peut pas avoir en Chine un troisième enfant, un quatrième enfant encore aujourd'hui. On ne peut pas non plus avoir, et ça on le sait moins, on ne peut pas avoir un enfant en Chine quand on n'est pas marié. Et on n'a pas le droit d'avoir un enfant avant 20 ans. Ce qui veut dire que les contrôles continuent dans les campagnes. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est quelque chose où on a eu une image biaisée en fait de cet assouplissement de la politique de l'enfant unique qui est effectivement une grande avancée. Puisque les couples peuvent désormais avoir deux enfants, mais cela dit, les contrôles n'ont pas pour autant été abolis.
Les femmes et dans les campagnes, agents du planning familial sont toujours là.
Ils sont toujours là et dans les régions rurales, ils continuent de contrôler les femmes tous les 3 mois en faisant une échographie pour vérifier qu'elles ne sont pas enceintes illégalement. Donc le contrôle des naissances continue en Chine.
Merci beaucoup, Marjolaine Grapp, d'être passée dans nos studios. Je rappelle donc deux de vos documentaires, La peine des hommes, co-réalisé avec Christophe Barrère, diffusé il y a quelque temps sur France 24, mais aussi donc Le cri interdit dont on parlait à l'instant, qui est un documentaire qui a été donc présélectionné pour le prix Albert Londres, qui sera remis dans quelques jours. Je crois que c'est le 1er juillet. Merci beaucoup, Marjolaine Graff.
Merci à vous.
C'est avec ce chanteur chinois, tout en haut des hit parades en Chine, que l'on tourne cette page pour s'intéresser à l'Europe, alors que le président de la République a participé hier à son premier Conseil européen. Emmanuel Macron peut-il vraiment sauver l'Europe ? Voilà notre question.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, parce que hier s'est ouvert ce Conseil européen, le premier auquel participe le nouveau chef de l'État français, qui, dès hier soir, prenait la parole devant les caméras lors d'une conférence de presse. Écoutez.
L'Europe n'est pas à mes yeux simplement une idée, c'est un projet, une ambition. Je l'ai défendu dans la campagne présidentielle en France. Ce conseil va permettre de parler de nombreux sujets d'actualité et d'avenir de notre Europe, et tout particulièrement de pouvoir porter avec détermination ce projet d'une Europe qui protège. Nous allons travailler sur la lutte contre le terrorisme, sur les sujets de migration, sur en particulier les sujets de défense. Nous aurons des discussions sur le commerce, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Autant de sujets qui font l'Europe et qui font que l'Europe peut apporter une réponse concrète aux craintes du quotidien, aux défis du quotidien, au dérèglement de la mondialisation. Et c'est aussi cela le projet que nous portons, et c'est ce que je veux défendre aujourd'hui avec l'ensemble de mes collègues.
Et beaucoup de caméras, beaucoup de micros autour d'Emmanuel Macron. Il faut dire que les partenaires européens attendaient beaucoup de son arrivée, espérant qu'elle marquera peut-être le début d'une grande relance pour l'ensemble de l'Union européenne. En effet, jusqu'ici, les défenseurs de l'Europe avaient un peu de mal à se faire entendre, et c'est vrai que ces dernières années, c'était plutôt ses détracteurs qui avaient le vent en poupe. Mais voilà, Emmanuel Macron est parvenu à remporter l'élection présidentielle en portant haut les couleurs de l'Europe, stoppant là l'élan d'un continent qui pourrait enfin peut-être redevenir europhile. Yves Bertoncini, notre invité, et Pauline Schnapper également est arrivée. Bonjour Pauline Schnapper, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle. Toujours Marc Sémo, bien sûr, notre partenaire du Monde. Marc, la relance de l'Europe, c'est évidemment une priorité pour tous les États membres. Il faut éviter le délitement, il faut s'attaquer de front à un certain nombre de dossiers, la défense, l'économie. Il y a tout juste un an, jour pour jour, l'Union européenne vivait un séisme, évidemment, avec le Brexit, qui va maintenant rentrer dans sa phase concrète, puisque les discussions officielles ont commencé. Les défis sont immenses et, en même temps, peut-être pas inatteignables. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui semble plutôt favorable. La vague populiste semble un peu stoppée. On l'a vu en Autriche, on l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu ici, en France. Les économies nationales, par ailleurs, vont un petit peu mieux. Il y a beaucoup de pays aussi qui voudraient peut-être tourner la page d'une Europe avec une Allemagne, finalement, qui domine un peu tout, politiquement, économiquement. Tout cet environnement, Marc, fait que, finalement, Macron apparaît peut-être comme l'homme providentiel qui pourrait redonner à l'Europe l'élan dont elle a besoin, Marc.
Effectivement, il y a un excellent alignement de planètes de ce point de vue-là pour Emmanuel Macron. Alors, l'Europe qui protège, hein, qui est chère au président français, c'est aussi, voire même d'abord, la défense. Et ainsi, le projet communautaire pourrait repartir de là où il aurait dû commencer et de ce qui fut son échec le plus fracassant, la communauté européenne de défense qui a échoué au milieu des années 50 à cause d'ailleurs déjà d'un refus français. Et c'est après qu'on a commencé à parler d'acier et de charbon. On l'oublie trop souvent, ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, mais c'est la paix dans le monde de la guerre froide qui a fait l'Europe face aux dangers soviétiques. Et c'est ça qui, avec l'aide de Washington, a incité les pères fondateurs à accélérer le projet. Et aujourd'hui, justement, c'est sa chance, parce qu'on est face à une administration Trump totalement imprévisible. Le départ programmé du Royaume-Uni avec le Brexit est aussi une chance, puisque il a toujours été assez hostile à l'Europe de la défense. Et il devient aujourd'hui de plus en plus évident pour à la fois les gouvernements européens, mais aussi les peuples. Tu en parlais tout à l'heure avec le reflux des vagues populistes, qu'il faut que les Européens compte sur eux-mêmes. Alors c'est la défense, c'est aussi une politique étrangère commune, c'est l'industrie de défense, un fonds vient d'être créé, c'est aussi donc une politique étrangère commune, et là-dessus, Emmanuel Macron d'un côté et Angela Merkel sont très complémentaires. Ils sont à même d'incarner cette image d'un leadership qui est plus important que jamais. Le monde a été pendant très longtemps dirigé par ce qu'on appelle le P3, hein, c'était cette espèce de triumvirat à l'ONU, États-Unis, Grande-Bretagne, France. Aujourd'hui, il ne reste que la France, et aujourd'hui, il y a cet espace qui peut donner à l'Europe un leadership sur un certain nombre de valeurs, climat, démocratie, justice sociale, etc.
Voilà, le cadre est posé. Merci beaucoup Marc Sémo. Je vais commencer peut-être avec Yves Bertoncini, si vous le permettez, Pauline Schnapper, et peut-être en particulier sur cette question de la protection. Yves Bertoncini, parce qu'effectivement, ce que disait Emmanuel Macron dans cet entretien accordé à un certain nombre de quotidiens européens, c'est que la clé de la relance, c'est cette Europe qui protège. C'est ça qu'il dit sur le plan de la défense, de l'économie, sur la question de la protection des frontières. Quel regard vous portez, Yves Bertoncini, sur cette manière de concevoir la relance européenne, au cœur de laquelle se trouverait cette question de la protection des Européens? Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que ça vous semble seulement être une philosophie de la relance pour l'Europe, Yves Bertoncini?
Je crois que c'est une perspective stimulante, dictée par le contexte géopolitique que vient de rappeler Marc Semo. Et au fond, c'est une forme de retour aux sources, même. Parce qu'il est vrai de dire que si nous, Européens, après avoir guerroyé tant et tant pendant si longtemps, avons enfin résolu d'essayer de nous unir, en tout cas ceux qui le pouvaient, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que nous avions peur, d'une certaine manière, de nous entretuer à nouveau, puis nous avions une autre menace à l'Est, celle de Joseph Staline. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'après avoir fait la Communauté européenne du charbon et de l'acier, mettant en commun donc les éléments, les ingrédients de l'effort de guerre, il y a eu cette tentative de Communauté européenne de défense qui a avorté suite à un refus français. Et c'est vrai que du coup, l'Europe a pris des chemins économiques. On est passé de Mars à Mercure, si on veut parler d'alignement de planètes. Cette Europe économique, elle a des vertus, hein. Elle a des réalités, c'est une opportunité, ce n'est pas que des menaces. Je le dis au passage parce que quand un président français parle de l'Europe qui protège, il est très entendu sur les enjeux de sécurité collective, je vais y revenir, mais que quand il s'agit d'économie et de sociale, on va peut-être redouter qu'il ne soit protectionniste. Et ça va être un défi pour Emmanuel Macron de trouver le bon équilibre. Mais pour revenir au contexte actuel, oui, il y a donc à nouveau un contexte où il y a une menace, des menaces, hein, c'est plus Staline, c'est Poutine, le terrorisme islamiste, le chaos dans notre voisinage, et puis même des menaces plus larges, hein, plus diffuses, le changement climatique qu'a cité Emmanuel Macron, les migrations qui ne sont pas des menaces en tant que telles, mais si elles deviennent totalement anarchiques, oui, bah, ça devient déstabilisant, la finance folle, peut-être la Chine, hein, dont on a parlé avant, ça a monté en puissance, menace face auxquelles l'Europe peut apparaître, en tout cas c'est ce que souligne Emmanuel Macron, comme une protection. Et donc oui, il y a là une dynamique qui est d'autant plus forte, et j'en termine, que notre protecteur traditionnel, l'Amérique, l'oncle Sam, l'oncle Donald, est imprévisible, hein, et c'est un euphémisme de le dire. Et donc les Européens, Angela Merkel l'a dit, doivent prendre leur destin en main, donc ça ouvre une nouvelle phase, oui, géopolitiquement porteuse, pour redonner du sens à la construction européenne.
Pauline Schnapper, peut-être pour finir ce premier tour de table, pour poursuivre sur la question de la protection et la relier peut-être à celle du Brexit. Parce que dans son entretien, Emmanuel Macron a expliqué à propos du Brexit qu'il s'était joué sur les travailleurs d'Europe de l'Est qui venaient occuper les emplois britanniques. Voilà ce qu'il a dit. Vous pensez que je peux expliquer aux classes moyennes françaises que des entreprises ferment en France pour aller en Pologne car c'est moins cher et que chez nous, les entreprises de BTP embauchent des Polonais car ils sont payés moins cher. Ce système ne marche pas droit, a-t-il dit. D'ailleurs, l'une des priorités d'Emmanuel Macron, peut-être qu'on y reviendra, c'est de proposer une refonte de cette directive sur le travail détaché. Donc, les conséquences du Brexit ont été tirées. Le président français veut étouffer l'un des moteurs de l'euroscepticisme qui a nourri ce Brexit.
Oui, même si la situation était quand même très différente en France et au Royaume-Uni, puisque en France, le débat que nous avons, c'était donc sur celui des travailleurs détachés et du dumping social que cela entraînerait, alors qu'au Royaume-Uni, la question a beaucoup porté, la campagne du référendum a beaucoup porté sur la présence donc d'environ 2 millions d'Européens de l'Est, arrivés après 2004, quand Tony Blair n'a pas imposé de période transitoire avant l'ouverture complète des frontières. Et c'est une question autour de l'immigration dans un cas, et dans l'autre, c'est plutôt une question de politique sociale, disons. C'est quand même lié, en tout cas autour de la question de l'État-providence qui fait le lien entre les deux pays. Et je crois que, oui, Emmanuel Macron a saisi ce problème. Theresa May l'a aussi, d'une certaine façon, saisi, en tout cas dans le discours. Pas beaucoup dans des changements de politique, mais dans le discours, on va le voir dans les semaines qui viennent pendant les négociations sur le Brexit, qu'elle est totalement obsédée pour l'instant par la question de l'immigration. Et la raison pour laquelle le Royaume-Uni prétend, en tout cas, ne pas pouvoir rester dans le marché unique et dans l'union douanière, c'est qu'il veut absolument contrôler ses frontières. Mmh. Donc, y compris au prix de sortir du marché unique, ce qui, sur le plan économique, peut nous paraître complètement absurde. Bon, c'est une ancienne ministre de l'Intérieur, ce qui peut aussi expliquer, mais pas seulement. Enfin, il y a un mélange de vote Brexit et de son expérience comme ministre qui fait que cette question migratoire est absolument cruciale au Royaume-Uni aujourd'hui.
Et ça sera peut-être aussi l'une des difficultés pour Emmanuel Macron. C'est aussi parce que à côté, en face, j'allais dire, de cette question des travailleurs détachés, on retrouve l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, en réalité, parce que c'est de là que viennent l'essentiel de ces travailleurs détachés. Et on voit déjà, on a déjà vu poindre un certain nombre de critiques de la part de Viktor Orban, je le disais, mais aussi de la part de la Pologne. On voit bien que ça risque d'être un des obstacles, peut-être, Yves Bertoncini, pour cette relance européenne à la Macron, si je puis dire.
Oui, sans doute, parce qu'au fond, un an après le vote en faveur du Brexit, ce qu'on peut constater, c'est que les autres pays ne vont pas partir. C'était une fable, hein, l'effet domino. Je crois que d'ailleurs les commentateurs britanniques, The Economist en particulier, se sont lourdement trompés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nationalistes. Il y avait des spécificités britanniques qui expliquent pourquoi ce pays, et pas seulement social, hein, politique, symbolique, etc., a, une courte majorité certes, mais clairement voulu quitter l'Union européenne. Il s'apprête à le faire, et d'ailleurs on se rend bien compte que c'est pas si facile hein, de divorcer. Ça a un peu calmé les autres, je dirais. Et puis les autres vont rester. Simplement, qu'est-ce qui se passe entre les autres? Il se passe qu'ils sont traversés de crises de copropriétaires successives. Alors on l'a vu hier avec la crise de la zone euro, la crise des réfugiés aussi. Face aux attentats terroristes aussi, des crises et des tensions autour de la gestion de l'espace Schengen. Ce que vous évoquez, là, ce sont des crises de copropriétaires larvées qui peuvent dégénérer. Emmanuel Macron a un agenda ambitieux, mais c'est vrai que quand il commence à expliquer qu'il y a des fraudes au travail détaché qu'il faut combattre, il ne trouvera pas d'opposition là-dessus. Mais s'il commence à remettre en cause le principe même du fait qu'au sein d'un marché unique, il y a une forme d'hétérogénéité, oui, ben bien sûr, il y a une hétérogénéité salariale, de conditions sociales, et que c'est ce principe même de l'hétérogénéité qui pose problème, alors oui, il va trouver sur sa route non pas seulement les pays d'Europe centrale et orientale, mais d'autres pays qui bénéficient de ce marché unique, ce qui est aussi le cas de la France, ce qui n'empêche pas que ça peut faire des victimes ici ou là. Il y a d'autres crises de copropriétaires larvées, je repense aux pays d'Europe centrale et orientale, Emmanuel Macron est très offensif, d'ailleurs je pense qu'il a raison, sur les enjeux de respect de l'état de droit et des valeurs. Et donc là, il pointe à nouveau la Pologne et la Hongrie. Mais n'oublions pas que ces pays qui ne souhaitent pas partir, on n'a pas vraiment de moyens de les expulser, hein, d'ailleurs, on n'en a pas, peuvent effectivement adopter une attitude un petit peu rigide, voire jusqu'au boutiste. Mmh. Sur la politique commerciale, je prends juste un dernier exemple, idem. Emmanuel Macron a un agenda ambitieux, il dit qu'il faut faire la réciprocité dans les échanges, notamment avec la Chine, l'accès au marché public. Je suis pas du tout sûr qu'il obtiendra aisément satisfaction là-dessus, dans la mesure où le commerce international profite beaucoup à des pays comme l'Allemagne et que, à l'heure où Trump pourrait vouloir tout remettre en cause, eh bien, l'Allemagne n'a aucun intérêt à vouloir introduire des problèmes, non pas qu'ils n'existent pas, mais en tout cas, surligner l'existence de problèmes qui pourraient gripper la belle mécanique. Et donc, voilà, pas de Brexit, pas de Frexit, pas de Hungarexit, que sais-je encore, mais des crises de copropriétaires qui ne sont pas réglées et qui pourront peut-être être atténuées si tous ensemble, Européens, on regarde vers l'extérieur, notamment vers les dangers de la mondialisation.
Marc Sémo.
Justement, avec cet agenda ambitieux et dans cette situation, est-ce que ce n'est pas le moment de pousser vers cette Europe à plusieurs vitesses que désormais l'Allemagne accepte aussi, hein, c'était le sommet à Paris avec aussi les Espagnols et les Italiens, et finalement, sans parler de Hungarexit ou de Polexit, voilà, qu'on ait de fait une Europe de plus en plus institutionnalisée à plusieurs vitesses, qui est le seul moyen finalement de répondre très rapidement et de façon, en regardant plus loin, aux défis qui se posent, notamment en termes de défense.
Et là encore, je précise que peut-être que précisément, les pays d'Europe centrale ne sont pas très favorables à cette idée-là. Par exemple, la question du budget de la zone euro, les pays de l'Est disent, nous, on risque d'en être un petit peu exclus. Donc c'est aussi la question de la limite de cette Europe à plusieurs vitesses qui est posée. Yves Bertoncini.
Oui, l'Europe différenciée est une réalité qui va s'approfondir. Ça ne doit pas être un programme. C'est une réalité, c'est un pied-aller. Non, pourquoi ça ne doit pas être un programme? En tout cas, pourquoi, si c'est un programme, c'est clivant? Parce qu'en gros, il faut regarder le monde d'abord. Nous, Européens, quand les Britanniques nous auront quittés, on ne sera plus que 5% de la population mondiale. Face au changement climatique, il faut agir tous ensemble. Voilà. Il y a plein d'éléments d'agenda qui doivent réunir les 27. Plein. Et je crois que c'est très intéressant d'abord d'insister, et très important d'insister sur ces enjeux qui implique tous les États membres de l'Union européenne. Face au changement climatique, face à la finance folle, face à la montée en puissance de la Chine, face à l'État islamique, face à Vladimir Poutine, il ne s'agit pas d'agir à plusieurs vitesses. Il s'agit d'être tous ensemble et d'aller à pleine vitesse, plus vite. Et pour le marché unique, pour...
C'est un peu du wishful thinking. On n'a pas vraiment l'impression que certains de nos partenaires comprennent l'importance de ces enjeux.
Mais je prends un exemple. Vous avez cité le budget de la zone euro. Hein? Bien sûr qu'il faut un budget pour la zone euro, mais il faut un agenda positif aussi pour le budget de l'UE en entier. Parce qu'évidemment, si on ne parle plus que du budget de la zone euro, il y a cette espèce d'impression qu'il va y avoir un vaste communicant, c'est-à-dire qu'on ne va plus mettre l'argent dans le budget de l'UE au sens 27, 28 même pour l'instant encore, et puis qu'on va ne focaliser que sur le budget de la zone euro. Une fois qu'on a un agenda inclusif qui est ouvert à tout le monde, si ensuite certains États membres ne veulent pas de certaines avancées, ben d'une certaine manière c'est d'ailleurs démocratique, c'est conforme à leur souveraineté nationale de ne pas y aller. Mais regardez hier, je prends juste cet exemple, au Conseil européen, il a été acté qu'on allait engager une coopération structurée permanente en matière de défense, parce qu'il faut agir. D'ailleurs, les dangers qui nous menacent nous y poussent, et Donald Trump également, faites-en plus. Eh bien, cette coopération structurée permanente, elle est ouverte assez largement à tous les pays qui veulent y participer, y compris Europe centrale et orientale. Alors que si on misait directement sur un noyau dur, il se sentirait exclu, ça accroîtrait la crise de copropriétaires, et encore une fois, attention à eux, parce qu'ils ne veulent pas sortir et nous ne pouvons pas les expulser, donc il faut bien falloir faire avec.
Pauline Schnapper, peut-être sur cette question.
Oui, il me semble quand même que l'Europe à plusieurs vitesses, effectivement, elle existe déjà, avec la zone euro en particulier, Schengen, etc. Oui. En même temps, je vois mal comment elle pourrait ne pas être l'avenir pour, au moins à moyen terme. C'est-à-dire qu'on a un gros problème quand même, il faut le dire, avec des pays comme la Pologne et la Hongrie, qu'on ne peut pas expulser, certes, mais enfin, on a quand même, il me semble, un levier financier sur lequel on pourrait peut-être réfléchir. C'est quand même des pays, ça, Macron l'a dit, il a pas tort, hein, qui profitent des subsides de l'Union européenne et qui refusent certaines politiques communes, par exemple, à l'égard des réfugiés. Et puis, aussi, il faudra bien trouver un moyen, ou en tout cas, il faut l'espérer, d'associer le Royaume-Uni, pour ne parler que de ce que je connais le mieux, à des formes de coopération avec l'Union européenne, une fois qu'il sera sorti. Je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde, des Britanniques bien sûr, mais de nous aussi. Donc on peut quand même imaginer des formes de cercles concentriques, pour reprendre la vieille image qui date du début des années 90, qui pourraient non seulement contenir les pays de l'Union européenne, mais même les pays proches et extérieurs, comme le Royaume-Uni.
Justement, à propos du Brexit, Pauline Schnapper, dans l'entretien de cette semaine, quand on demande à Emmanuel Macron si la porte est ouverte à une marche arrière, il répond la chose suivante. La porte est ouverte jusqu'au moment où on la franchit. À partir du moment où les choses s'engagent avec un calendrier et un objectif, il est très difficile de revenir en arrière. L'objectif, il a été défini par Theresa May, enfin, il a même été défini par le peuple britannique lui-même, cette sortie claire de l'Union européenne. Le calendrier, il est désormais sur la table. Est-ce qu'il faut interpréter la position d'Emmanuel Macron comme une clarification pour ceux qui, peut-être, disaient qu'en réalité, le Brexit n'aurait pas lieu, la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne de gré ou de force?
Oh, c'est même pas de force, je veux dire, on est de gré, si je puis dire très clairement. Il y a eu un référendum et on est tous bloqués par le résultat de ce référendum.
Oui, sauf que c'est pas exactement ce que dit Theresa May.
Oui, en plus, c'est pas un référendum, c'est un référendum consultatif.
Certes, dans l'absolu, en théorie.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on négocie et qu'ensuite, avant le grand saut, il y ait, surtout maintenant que l'opposition monte, etc., on va faire une nouvelle consultation pour, en fonction de ce qu'on nous offre, décider si oui ou non, et que compte tenu du climat général aujourd'hui au Royaume-Uni, bah, l'opinion décide non.
Et puis je rappelle juste, et je vous laisse poursuivre tout de suite Pauline Schnapper, pardonnez-moi de vous couper, mais je rappelle cette phrase qu'elle a répétée à plusieurs reprises, Theresa May, no deal is better than a bad deal. Oui, donc on a même l'impression que d'une certaine manière, la stratégie de Theresa May, c'est peut-être qu'il n'y est pas d'accord.
Non, pas du tout. Alors, vraiment, je crois qu'on est, vous ne comprenez pas bien la dynamique intérieure, la dynamique politique qui est à l'œuvre aujourd'hui à Londres. Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire, la question peut se poser effectivement d'un vote du Parlement sur un accord.
Et si le Parlement vote non,
Ce qu'on nous laisse entendre, c'est une renégociation. C'est pas du tout de ne pas sortir de l'Union européenne. Personne aujourd'hui, ni au Parti conservateur.
Un nouveau référendum ?
ni au Parti conservateur, ni même dans le parti, au Parti travailliste, ce qui serait d'une certaine façon plus intéressant, parce qu'il faudrait envisager des choses qui pourraient se passer en cas de retour des travaillistes au pouvoir. Le Parti travailliste aujourd'hui n'envisage pas de rester dans l'Union européenne. Et si vous regardez les sondages, même parmi les électeurs qui ont voté pour rester dans l'Union européenne, il y a une espèce de fatalisme aujourd'hui qui fait qu'une majorité d'entre eux acceptent que le Royaume-Uni va sortir. Donc ça, je crois pas du tout qu'il faille envisager cette possibilité d'un deuxième référendum sur le maintien ou pas. Je crois que malheureusement, parce que personnellement, je pense que c'était une énorme erreur, malheureusement, ça va avoir lieu. Le débat et la question et le vote éventuel, il portera sur le contenu de l'accord. Et c'est là-dessus qu'on peut jouer, si je puis dire. Parce que d'un accord à l'autre, il peut y avoir des différences énormes.
Il y a une sincère recherche d'accord. Ah du côté de Theresa May.
Oui,
c'est pas une évidence, hein, me semble.
Non, non, c'est pas une évidence. Elle a répété bêtement que no deal is better than bad deals, phrase totalement creuse, faut bien le voir, qui ne veut rien dire. Mais alors, et les Britanniques auront besoin d'un accord.
Juste un petit point. Sans leur offre un statut comme la Norvège, globalement, alors, ils restent profondément associés à l'Union européenne, mais ils continuent plus ou moins à payer la même chose. Ils n'ont même pas l'avantage d'être dans les décisions. Donc, là aussi, rationnellement, le Parlement devrait voter non.
Ça sera le meilleur accord possible serait du type de celui de la Norvège, mais il ne pourra pas être le même, pour les raisons que vous venez d'indiquer. C'est quelque chose qui rapprocherait de ce statut-là, mais ça ne sera pas le même, ça c'est sûr.
Yves Bertoncini, sur cette question du Brexit.
Ça m'évoque la crise de copropriétaire
dont vous parlez. C'est votre grande image, ça, la voilà, crise de copropriété.
Le fil de ma métaphore, non, parce qu'on a eu, je veux dire, avec le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, une crise de copropriétaire là aussi. Et d'ailleurs, là, on était obligés, nous, les 28 peuples de l'Union européenne, de se mettre d'accord, parce que c'était vraiment les règles de copropriété, qui décide de quoi. Et c'était très difficile de donner satisfaction à la fois aux deux peuples qui avaient voté oui par référendum, le Luxembourg et l'Espagne, et aux deux peuples qui avaient voté non par référendum, les Français et les Néerlandais, de sorte que ça y a d'ailleurs nourri une frustration dont on entend encore parler aujourd'hui en France, alors qu'il fallait en réalité mettre d'accord 28 peuples et que le peuple français avec son nom ne pouvait pas dicter sa loi aux autres. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans un cas comme celui du vote en faveur du Brexit, là, il est, entre guillemets, aisé de donner satisfaction aux Britanniques, parce que ça n'engage qu'eux. Ils ont décidé de sortir, je crois, moi, pour ma part aussi, que c'est une mauvaise idée, mais enfin, c'est l'idée exprimée par le peuple britannique. Ils vont sortir, ils doivent sortir. Je crois qu'il faut il faut rester dans cette logique intellectuelle-là et politique. Si, surtout quand on parle depuis la France, où sinon on nous dirait, bah voilà, on va encore bafouer la volonté populaire. Maintenant que cette volonté populaire s'est exprimée, en revanche, effectivement, la négociation porte sur le statut futur du Royaume-Uni. Là-dessus, d'ailleurs, le brouillard est sur la Tamise, hein, plus que sur la Manche. Parce que les Européens peuvent offrir le statut norvégien, en effet. Ils peuvent offrir le statut suisse, je crois pour ma part, qu'on se rapprochera beaucoup plus du statut suisse amélioré. Il y aurait le statut canadien, le statut turc, et que sais-je encore. C'est aux Britanniques de savoir où ils veulent aller. Pour l'instant, une chose est sûre, c'est qu'ils ont décidé de déménager, qu'ils n'ont pas encore pris conscience des coûts du déménagement et qu'ils n'ont pas les plans de leur future maison. Alors, ce qu'a dit Tony Blair, c'est quand on aura les plans de la future maison, peut-être bien que là, il y aura un doute sur le fait que d'abord, le déménagement, ça coûte cher et puis qu'en plus, la future maison, elle n'est pas du tout adaptée à nos besoins. Mais enfin, ça, il faut vraiment laisser à Shakespeare ce qui est à Shakespeare. Moi, je crois plus exactement que les Britanniques s'interrogeront, le Parlement s'interrogera sur le statut, hein, les plans de la future maison. Je crois, et je le redis, que ça s'inspirera en amélioré du modèle suisse actuel, mais que ça sera fait sur mesure pour les Britanniques, hein, parce qu'ils avaient un statut fait sur mesure en tant que membres. Là, ils auront un statut fait sur mesure en tant que non-membres. Et que, bah, ensuite, il faudra essayer de garder des liens très, très resserrés avec eux, notamment en matière de sécurité collective.
Juste un point. Quelle est la différence entre le statut suisse et le statut norvégien?
Non, le statut suisse, c'est pas l'espace économique européen, c'est-à-dire les quatre libertés, le budget, ça c'est le statut norvégien, effectivement avec en termes de souveraineté quand même une concession lourde parce qu'on adopte des normes européennes qu'on n'a pas édictées. Le statut suisse d'abord ça porte pas sur l'intégralité du marché unique, on peut choisir selon les secteurs. Les normes sont clairement des normes nationales. Alors oui, c'est un peu du copier-coller des normes européennes, mais enfin, au moins, l'honneur souverainiste est sauf. Il n'y a pas de juridiction de la Cour de justice. Ça aussi, c'est très important pour les Britanniques. Et donc, il y a cette faculté de libéraliser, entre guillemets, certains secteurs.
Mais ça coûte quasiment plus cher que le
Norvège. Et pas d'autres. Non, ça coûte moins cher tout de même. Et il y a aussi, d'ailleurs, je termine là-dessus, des possibilités, que d'ailleurs les Norvégiens ont, de mettre des clauses de sauvegarde sur la libre circulation des travailleurs. On l'a vu, d'ailleurs, les Suisses ont à un moment voulu mettre un frein, je dirais, à la libre circulation des Européens, qui était devenue importante chez eux. Donc, il me semble que ça sera de toute façon un statut sur mesure pour les Britanniques, tailor-made, bien sûr, ils vont le rechercher, qu'on reprendra d'ailleurs des éléments du deal qu'avait obtenu Cameron avant le référendum, et puis que si la raison l'emporte, eh ben, il y aura un divorce qui coûtera, comme tous les divorces, mais en tout cas un partenariat futur qui maintiendra une forme d'interdépendance entre le Royaume-Uni et le continent.
Oui, je n'ai peur. Ensuite, on glissera doucement vers la question de défense pour finir.
Pour compléter ce que vient de dire Yves, effectivement, il parlait de brouillard sur la Tamise, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que jusqu'aux élections législatives d'il y a 15 jours, Theresa May semblait avoir une stratégie qui était très discutable sur le fond, mais qui était à peu près claire, qui était en gros, pas de marché, ce que on a dit tout à l'heure, pas de marché unique, pas d'union douanière, contrôle des frontières. Et en gros de l'accès au cas par cas, au marché unique, des accords, un accord commercial aussi important que possible. Bon, c'était assez clair, même si c'était pas forcément une bonne stratégie. Et puis il y a eu les élections, elle a perdu sa majorité absolue, la courte majorité absolue qu'elle avait au Parlement, et du coup les gens qui étaient pas d'accord avec cette stratégie et qui faisaient plus ou moins, qu'on n'entendait plus, se sont réveillés. Et donc on entend de nouveau depuis quelques jours, aussi bien au sein de son parti que chez les travaillistes, des voix, les voix qu'on n'avait plus entendues, par exemple celle du chancelier de l'échiquier, Philippe Hammond, qui a commencé à dire que quand même la priorité devrait être l'économie, quitte à faire des compromis sur l'ouverture des frontières, sur la libre circulation. Et ça, c'était un discours qu'on n'entendait plus du tout. Alors, c'est un discours qui n'est pas du tout majoritaire, mais qui vient quand même du numéro 2 du gouvernement. Et donc, l'effet immédiat, c'est de rendre encore plus confuse la position britannique. On ne sait pas aujourd'hui, et je suis pas sûre que Theresa May sache elle-même, quelles vont être vraiment ses priorités dans la négociation qui vient de commencer.
Il y a quelque chose qu'on sait à peu près sur le Brexit, c'est les conséquences sur le plan de la défense. Et en fait, elles risquent d'être relatives, très relatives, ces conséquences, parce que sur le plan de la sécurité et de la défense, Emmanuel Macron souhaite un niveau de coopération poussé avec le traité de Lancaster House comme cadre global, qui avait été signé en novembre 2010, mais qui en fait faisait suite à un ancien traité de 1947. C'est un niveau de coopération extrêmement poussé. Donc en réalité, ce Brexit, Pauline Schnapper, il ne va pas bouleverser grand-chose sur la question de la coopération avec les Britanniques dans le domaine de la défense.
Alors, pas dans la coopération bilatérale.
Ouais.
Franco-britannique, qui est devenue très importante.
Mais qui est essentielle.
Qui est essentielle, qui est très importante pour nous, ça c'est clair, en Afrique, au Moyen-Orient, ça c'est très important. Alors là où ça pose un problème, mais où peut-être aussi ça ouvre de nouvelles possibilités, c'est au niveau européen, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le Royaume-Uni était quand même un peu un frein, il faut bien le dire, depuis des années, depuis 98, au développement d'une politique européenne de défense. À la fois, c'est toute l'ambiguïté de la position, Blair l'avait permise avec l'accord de Saint-Malo avec Chirac, donc a permis le début de cette coopération européenne, et en même temps, très vite, il l'a freinée. Donc le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, si on est optimiste, ça peut être un avantage, puisque d'un côté on garde cette coopération bilatérale et en même temps on peut développer une coopération européenne avec l'Allemagne en particulier au centre du jeu.
Et d'ailleurs ces initiatives, on commence à les voir poindre, puisqu'il y a la création de ce budget de recherche pour la défense, Hubert Onsiné.
Oui, de ce point de vue-là, le Brexit à venir, et puis il faut vraiment ajouter l'effet Trump aussi, l'effet Poutine, les menaces... Et galvanisant pour ce qu'on a appelé l'Europe de la défense, d'ailleurs à tort, cette marque Europe de la défense a été promue dans les années 90, à l'époque où il n'y avait nul besoin de se défendre et pas d'Europe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de besoin de se défendre parce qu'il y a beaucoup de menaces autour de nous. Et effectivement, l'Europe peut émerger. Pourquoi ? Parce que les Britanniques en sortent et les Américains, incarnés par Trump, vraiment sont imprévisibles, peu fiables et nous poussent, comme le faisaient déjà leurs prédécesseurs, à nous prendre en main. Bon. Et donc, ce que ça débloque, la sortie des Britanniques, c'est effectivement des outils communautaires, un budget pour la recherche en matière militaire, une sorte de quartier général européen qu'on n'a pas appelé comme ça, mais enfin, ça revient à ça. La coopération structurée permanente en matière de défense qui va être lancée. Mais pour le reste, c'est vrai que ça va rester très bilatéral, multilatéral. Regardez par exemple l'Eurocor qui existe déjà, c'est 5 pays. Et donc là, ça va vraiment être l'Europe différenciée, combinée avec un appoint communautaire en matière militaire. J'ajoute la même chose en matière de police et de justice, hein, parce que face au terrorisme islamiste, on n'a pas besoin d'armes nucléaires, hein, c'est pas comme ça qu'on les combat. Et donc là aussi, une Europe différenciée dans laquelle les Britanniques resteront des acteurs stratégiques.
Mais est-ce que le problème là-bas n'est pas d'abord politique sur cette question de l'Europe de la défense ? Parce qu'au-delà de ce qu'on peut imaginer en commun pour l'industrie de défense, pour la recherche de l'industrie de défense, le problème, il est pour l'Allemagne, les règles d'engagement de ses troupes extrêmement restrictives à l'étranger, extrêmement longues, où il faut des procédures, l'accord du Parlement, etc. Aussi des problèmes techniques, on s'aperçoit par exemple que les hélicoptères prêtés par l'Allemagne pour l'opération Barkhane ont des problèmes dès qu'il fait plus de 40 degrés, ce qui n'est pas l'idéal au Mali. Donc, est-ce que finalement, le problème à la base, c'est pas celui d'abord d'arriver à faire une politique étrangère et de sécurité commune ?
Oui, mais
ça veut dire, évidemment, avec une Europe différencier, parce qu'on ne peut pas imaginer l'affaire à 27, et que donc ça veut dire l'affaire autour d'un noyau dur.
Yves-Bertrand Signy, en quelques mots, on arrive au terme de l'émission.
Mais il y a quand même une stratégie globale européenne pour la sécurité, hein, qui a édicté Federica Mogherini, à l'intérieur de laquelle les Européens vont pouvoir s'inscrire à proportion de leur volonté et de leur capacité. Oui. Et la France, d'ailleurs, jouera un rôle de leader dans cette perspective-là. Elle l'avait déjà, le leadership, mais c'est vrai que le fait que les Britanniques se retirent de l'Union européenne et Donald Trump étant ce qu'il est, ça donnera à Emmanuel Macron, là, je dirais, une capacité d'entraînement non négligeable. Comme
Yves Bertoncini, vous êtes scotché là, vous dites pourquoi est-ce qu'on a choisi ça ?
Absolument.
C'est un choix de notre réalisateur. Il disait, est-ce que ça ne fait pas un peu écho, me disait-il tout à l'heure, à la relation entre Macron et Angela Merkel ? Est-ce que véritablement il va y avoir cette communion totale entre Angela Merkel et Emmanuel Macron dans le jeu de la relance ? Parce que c'est vrai qu'il y a bientôt des élections du côté de l'Allemagne. Après tout, est-ce que Angela Merkel va totalement jouer le jeu de la relance ? On pourrait s'interroger, même si le coût peut-être de ne pas jouer pourrait être considérable, parce qu'on a derrière quand même un Martin Schulz qui pourrait passer pour le pro-européen. Hein, vous abondez, hein, Hubert Tonsini.
Oui, là, ouais. N'oublions pas qu'Angela Merkel est en campagne, qu'elle ne peut pas laisser l'espace européen à Martin Schulz. C'est une européenne pragmatique. Elle attend d'abord qu'Emmanuel Macron soit prophète en son pays, hein, qu'il mette la France en ordre ou qu'il la redresse dans la justice, comme disait l'autre. Et puis ensuite, compte tenu du contexte géopolitique, oui, elle sera avec lui et d'autres pour renforcer la construction européenne.
Merci beaucoup à tous les deux, Yves Bertoncini et Pauline Schnapper. Je rappelle, Pauline Schnapper, le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne ? Il va falloir réécrire maintenant, parce que ça y est, c'est fait. Vous nous le promettez. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve Brice Couturier sur Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, on parle de politique énergétique depuis le début de cette semaine. Les innovations technologiques dans le domaine énergétique ont abouti à une baisse spectaculaire des prix du pétrole. On en a un petit peu parlé cette semaine, vous le disiez hier. Mauvaise nouvelle pour le climat.
Ben oui, parce que nous ne sommes pas encouragés en tant que consommateurs à nous tourner vers les énergies renouvelables. Cependant, les révolutions technologiques en cours, si elles ont permis d'augmenter de manière spectaculaire la production d'hydrocarbures, aura aussi d'autres conséquences moins dommageables. Le management intelligent des systèmes complexes est en train de redessiner l'architecture du secteur de l'électricité. Durant des décennies, écrivent dans Foreign Affairs David Victor et Kasia Janosek, ce secteur a été dominé par des compagnies très centralisées, procurant une électricité produite par des générateurs énormes, que ce soit des centrales à charbon, au gaz, nucléaire ou hydraulique. Or, d'une part, les énergies vertes, éoliennes et solaires, sérieusement subventionnées par les gouvernements, sont ainsi devenues assez compétitives, mais surtout, elles ont commencé à transformer les marchés de l'électricité. Les outils numériques de gestion peuvent résoudre le principal problème que rencontraient ces sources d'énergie pour parvenir à s'imposer, à savoir leur intermittence. Les éoliennes ne tournent que lorsqu'il y a du vent, et pas trop. À l'heure actuelle, il existe un décalage entre les possibilités offertes par l'énergie solaire et la consommation d'électricité. Celle-ci baisse au moment précis où la production atteint son seuil le plus élevé, à savoir par beau temps dans l'après-midi. Ce décalage a déjà produit des phénomènes économiques aberrants, comme celui des prix négatifs au Texas. Les producteurs paient pour que les propriétaires d'installations personnelles coupent leur production à certains moments. Les compteurs intelligents permettront de gérer automatiquement les variations de fourniture provenant des renouvelables, de jouer sur les offres de fourniture centralisées et décentralisées afin d'optimiser la consommation au moindre coût. Et l'énergie produite par ce moyen sera de plus en plus facile à stocker sur des batteries de nouvelle génération. Beaucoup d'observateurs estiment que dans le domaine des énergies, le consommateur va reprendre le pouvoir. Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, prétend qu'il va même devenir acteur de sa propre production.
Une énergie plus abondante et meilleur marché. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les pays producteurs de pétrole.
Eh oui, en effet, rien qu'entre 2014 et 2016, c'est court, les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient ont vu les revenus de leurs exportations chuter d'un tiers, soit 15% de leur PIB, selon Ishaq Diwan, professeur à Paris Sciences Lettres et à Harvard. Les pays du Golfe, on le sait, disposent de considérables réserves et de fonds souverains qui ont investi leurs pétrodollars dans le monde entier. Mais d'autres vont rencontrer des difficultés imprévues. Et Diwan de citer l'Algérie, Bahreïn, l'Irak, l'Iran, la Libye et le Yémen. Ils ont emprunté pour éviter de procéder aux réformes indispensables durant le boom pétrolier des années 73-1985 et se retrouvent à présent dans des situations délicates. Lorsque la bulle financière a explosé en 2008, ils l'ont payé cher. Ils ont pris l'habitude d'acheter la paix sociale chez eux en subventionnant la consommation plutôt qu'en laissant l'économie créer des emplois. Aujourd'hui, il leur faut diversifier ces économies afin de les rendre moins dépendantes de la rente pétrolière et renouer avec la croissance. Mais, prévient Ishaq Diwan, les réformes nécessaires pour y parvenir pourraient menacer jusqu'à leur existence. D'autant que face aux menaces politiques que symbolisaient les printemps arabes, nombre de ces pouvoirs ont acheté des soutiens politiques en protégeant de la concurrence un capitalisme de copains. Des réseaux affairistes qui pourraient jouer un rôle politique déstabilisateur si ces régimes étaient obligés de s'attaquer à leurs privilèges afin de lancer les réformes libérales indispensables pour sortir des économies de rente. Il est certain qu'une énergie abondante et meilleur marché réduit l'influence géopolitique des grands pays producteurs de pétrole. L'Arabie Saoudite, qui en a pris conscience depuis un certain temps, vient de lancer un grand programme de reconversion économique baptisé Vision 2030. Il est destiné à réduire sa dépendance envers les revenus du pétrole. La Russie, de son côté, prétend avoir réformé suffisamment ses finances publiques pour faire face à un pétrole dont le prix se maintiendrait durablement à 40 dollars le baril. Mais des pays comme l'Angola ou le Nigeria sont dans une situation bien plus périlleuse. Ils doivent redouter des troubles sociaux dont profitent ici ou là les islamistes. L'humanité, donc, continue à consommer chaque jour 92 millions de barils de pétrole. Cela nous coûte moins cher qu'il y a 10 ans, mais on est loin des recommandations du GIEC qui estime qu'il faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% pour stopper la hausse des températures actuelles. La seule bonne nouvelle à l'horizon immédiat, c'est la baisse de la consommation mondiale de charbon, l'énergie la plus polluante de toutes, que même Donald Trump ne pourra pas enrayer parce qu'elle est dictée par les considérations économiques et non pas politiques.
Merci beaucoup Brice Couturier. De finir avec quand même une note d'optimisme dans cette série consacrée aux énergies et aux politiques énergétiques mondiales. Un grand merci. On peut bien sûr retrouver cette série sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.